Bonjour, bienvenue à votre rendez-vous dominical Tendance Confidence. Aujourd'hui, au cœur de l'été 2022, je vous propose d'écouter une personne qui est passionnée par la randonnée, passionnée par le pèlerinage, passionnée aussi par la poésie. François-Xavier Maigre, vous êtes également rédacteur en chef du Pèlerin Magazine. Vous êtes parti avec vos deux enfants, votre épouse et un âne pour partir de la place Saint-Michel à Paris, aller dans l'intérieur des terres en Normandie pour aller jusqu'au rivage au Mont Saint-Michel à pied, et donc vous avez parcouru 450 km à pied, ce qui a donné aussi naissance à un livre sous les ailes de l'archange. François-Xavier Maigre, que faites-vous comme distinction ou comme complémentarité entre le pèlerin et le randonneur ?
Le pèlerin, c'est un randonneur qui s'est fixé un but spirituel. Je pense qu'un randonneur qui se met en chemin vers le Mont Saint-Michel, vers Rocamadour, vers Saint-Jacques-de-Compostelle, Sainte-Anne-de-Ré, que sais-je encore, le randonneur qui se met en chemin vers un lieu de la foi, peu importe son degré d'engagement, peu importe s'il est baptisé ou même s'il prie, on a envie de mettre sa vie à l'épreuve du chemin, on a envie de s'élancer dans la simplicité des forêts pour découvrir qui on est. Alors à ce moment-là, on devient pèlerin. Et donc nous sommes des pèlerins dans la mesure où nous avons voulu nous arracher un peu à notre confort quotidien pour découvrir une forme de frugalité, une radicalité dans la marche, dans la rencontre, sans argent, de voyager comme ça de porte en porte, de village en village, pour redécouvrir qui on était, pour redécouvrir qu'on avait besoin des autres pour exister. Et pour nous, ça, c'est une démarche de pèlerin. Et le Mont Saint-Michel, qui est un des plus grands lieux de la chrétienté occidentale, incarne magnifiquement cette odyssée qu'est le pèlerinage à pied.
Quelle est l'histoire en quelques mots de ce pèlerinage sur les chemins de Saint-Michel ?
C'est au XIe siècle, je crois, que l'évêque Aubert a une apparition de Saint-Michel qui lui demande d'ériger un sanctuaire en son honneur sur ce qu'on appelait alors le Mont-Tombe, donc cet éperon rocheux granitique dans la baie de la Manche. Et donc, petit à petit, le Mont-Saint-Michel est créé. Très vite, un pèlerinage se développe, bien avant Saint-Jacques-de-Compostelle d'ailleurs. Il y avait ces chemins, ce qu'on appelait les chemins montais, qui se déployaient à travers l'arrière-pays français. On venait de Belgique, d'Allemagne, d'Autriche, on venait vraiment d'Angleterre, on venait de partout. Pendant la guerre de Cent Ans, le Mont Saint-Michel a joué un rôle très stratégique aussi. Il y a eu vraiment un engouement colossal, c'est-à-dire que c'est des foules entières, notamment des enfants qui partaient, ce qu'on appelait les pastoureaux, des dizaines de milliers de pèlerins qui traversaient comme ça les campagnes en chantant pour aller vers le Mont Saint-Michel. Et tout ça, ça a duré jusqu'à la Révolution française. À la Révolution française, le Mont est transformé en prison de droit commun, donc on interdit totalement le culte des saints. Et en quelques années, cette tradition qui existait depuis des siècles disparaît peu à peu et on oublie tout bonnement les chemins de Saint-Michel. À tel point que quand Victor Hugo vient au Mont-Saint-Michel au XIXe siècle, il a cette phrase célèbre en disant « Mais qu'a-t-on fait du Mont-Saint-Michel ? C'est devenu une ruine. » Il s'est vraiment scandalisé de l'état du Mont et il a fait partie de ceux qui ont sensibilisé l'État français pour revaloriser ce patrimoine qui tombait en ruine en fait.
Et cette marche pèlerine était audacieuse puisque, donc je le rappelle, vous êtes parti avec vos deux enfants qui étaient en bas âge, Martin et Faustine, pour parcourir 450 kilomètres.
Voilà, notre fille aînée Faustine avait 2 ans et demi, donc moi je la portais dans un porte-bébé sur le dos. Et effectivement, Martin, le cadet, avait 6 mois, et donc mon épouse le portait en écharpe sur le ventre. Et nous voyagions avec un âne cacao qui lui était bardé de tous nos bagages, en fait, les couches, les duvets, les couvertures, le réchaud, les casseroles, enfin tout ce qu'il faut pour voyager pendant 5 semaines quand même. 5 semaines de marche, 450 kilomètres, et c'était cette équipée un peu improbable qui nous a permis de vivre notre rêve en quittant Paris en fait simplement à pied comme ça pour redécouvrir le chemin qu'on a oublié depuis la Révolution française qui menait de la place Saint-Michel de Paris jusqu'au Mont Saint-Michel, chemin emprunté par les rois de France, par des quantités inimaginables de pèlerins. Et voilà, nous on s'est coulé un peu dans cette trace oubliée pour en redécouvrir la mémoire et avec toute notre jeunesse et notre désir de rencontre.
Est-ce que le long de ce chemin Saint-Michel, vous avez rencontré des personnes, évidemment, que vous ont dit ces personnes ? Ils sont fous de partir avec des enfants si jeunes, ou est-ce qu'au contraire, ça a été le lieu d'échange et d'accueil aussi dans leur maison ?
Écoutez, on a été globalement extrêmement bien accueillis. Pour nous, d'ailleurs, ça a été une vraie découverte. Moi, dans le cadre de mes voyages, de mes reportages, j'ai très souvent fait l'expérience de l'hospitalité, notamment dans le monde oriental, où vous entrez dans un lieu, vous êtes tout de suite accueilli comme un enfant de la maison. Alors voilà, en France, c'est différent. On dit que les gens sont individualistes, sont recroquevillés un petit peu sur leur confort, sur leur solitude. Et nous, c'est l'exact inverse qu'on a découvert. C'est que finalement, même ici en France, quand vous partez de chez vous à pied avec un rêve, avec un projet, que vous êtes authentique, que vous avez un désir de rencontrer les gens, les portes portes s'ouvrent, les visages aussi s'ouvrent. Et vous êtes accueillis de façon souvent très touchante. Même les gens qui n'ont pas grand-chose se mettent en quatre pour que vous ne manquiez de rien. On vous héberge, on vous nourrit. Les gens vous encouragent, vous confient aussi des intentions. Parce que quand vous dites que vous êtes pèlerin, que vous avez quitté votre domicile à pied pour aller vers le Mont-Saint-Michel, qui est un lieu quand même qui incarne énormément pour les gens, eh ben, les gens souvent confient une maladie, un proche disparu, un projet, une période de chômage, enfin, en tout cas, une difficulté. Et quand vous êtes pèlerin, vous êtes le porteur un peu de tous ces petits espoirs que les gens peuvent avoir sans oser toujours les partager.
Vous aimez partager cette expérience de la marche, du pèlerinage, de la randonnée. Vous l'avez fait avec votre famille. Vous aimez également la poésie. Vous aimez partager les mots. C'est après avoir lu des différents poètes que vous êtes mis aussi à coucher sur la page blanche. C'est ces différents mots pour en faire des paragraphes, des chapitres et des livres.
Assez jeune, en fait, j'ai perçu de façon plus ou moins confuse que les mots m'étaient essentiel en fait, qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la nécessité dans le fait de lire, dans le fait d'écrire, dans le fait de se nourrir de voix, qui m'ont fait découvrir le monde de façon beaucoup plus forte, beaucoup plus vraie que ce que j'avais l'impression de percevoir, moi, avec mes petites lunettes de jeune français, matérialiste, qui vivait un peu dans le confort de son époque. Et grâce à la poésie, en fait, j'ai accédé à une dimension imperceptible des choses, des êtres, des lieux, un autre rapport au temps aussi. Je crois que les mots ont ce pouvoir de nous faire habiter notre monde de façon très intense. Et c'est ce que je demande à la poésie, moi, c'est d'abord une sensation de l'éveil, une sensation de la présence aux êtres, aux choses, de pouvoir accéder à la part d'indicible au cœur des jours ordinaires. La poésie, pour moi, réenchante le quotidien, et c'est pour ça que je suis très attaché à cet exercice.
Et donc, en résumé, votre écriture est marquée par ce qu'on appelle encore aujourd'hui la quête de sens. La poésie n'a de sens que si elle est partagée, elle est le souffle qui nous relie. Donc vous allez me donner un extrait de votre ouvrage intitulé « Dans la poigne du vent » aux éditions Bruno Doucet.
C'est un poème justement qui relate un voyage, un pèlerinage que j'avais fait après la naissance de ma fille aînée. Et donc j'écrivais ceci. « Je marche comme mes pères avant moi, parce qu'un enfant m'a été donné. Je marche pour signer ma joie. » Je ne peux que marcher, je ne sais que marcher, puisque les pas d'un homme sont la seule offrande digne de la terre.
Un voyage avec bien sûr ces différents déplacements sur terre, d'un point A à un point B, c'est ce que vous avez fait aussi avec votre famille, de Paris jusqu'au Mont-Saint-Michel en empruntant les chemins de Saint-Michel. Nous allons y revenir tout à l'heure en seconde partie d'émission. Voyage aussi en poésie avec vous, c'est une façon de faire danser les mots que de les inscrire aussi sur une page. François-Xavier Maigre, nous vous retrouvons dans quelques instants sur Tendance Ouest pour cette émission au cœur de la vie, au cœur de votre vie, au cœur aussi de vos différents ouvrages, et nous allons continuer avec vous de faire connaissance et peu à peu de marcher, de mettre nos pas dans les vôtres, puisque vous nous allez nous servir de guide jusque à la merveille de l'Occident, que l'on appelle aussi le Mont-Saint-Michel.
C'est Tendance Confidence sur Tendance Ouest.
Suite de votre magazine Tendance Confidence, aujourd'hui avec François-Xavier Maigre, chef de rédaction au Pèlerin Magazine. Nous parlons avec vous de cette randonnée, de ce pèlerinage que vous avez effectué depuis la place Saint-Michel à Paris jusqu'au Mont-Saint-Michel à pied avec votre famille. Qu'est-ce qui a été votre motivation pour repartir avec votre épouse Pauline et vos enfants ?
Avec Pauline, on s'est mariés très jeunes. On a commencé à travailler aussi assez jeunes. Les enfants sont nés très vite. Et finalement, on a eu l'impression d'être embarqué dans une sorte de tourbillon. Après 23 ans, tout s'est enchaîné très vite. Et on est arrivé au seuil de la trentaine, deux enfants, des boulots très prenants tous les deux, la vie à Paris, qui a aussi quelque chose de parfois de très brutal dans les rythmes, dans la frénésie qu'elle entraîne. Une sorte de vertige, quoi. Quelque chose de vertigineux qui vous saisit. Et là, on se dit, il faut qu'on fasse une pause, qu'on lève le pied, qu'on prenne du temps pour se voir, pour être ensemble. Moi, j'étais très souvent en reportage à l'époque. Et on se dit, on va prendre un moment ensemble. Mais on va pas louer une maison, on va pas partir camper quelque part. On va vivre une aventure, on va faire un voyage.
Et ces pèlerins en marche vers le Mont-Saint-Michel ont également un nom, on les appelle les Miquelots.
Oui, c'est ça. Comme il y avait les Jacquets sur le chemin de Compostelle, il y avait les Miquelots sur le chemin de Saint-Michel. Mais en fait, ce chemin aujourd'hui est très méconnu. Donc il y avait en plus l'attrait de la nouveauté, de le côté un peu confidentiel. Et on s'est dit, mais on va faire ça, on va partir de la façon la plus simple qui soit. On prend un âne, nos enfants, nos bagages, on éteint nos téléphones et on marche pendant 5 semaines en essayant d'être le plus présent les uns pour les autres. Et ça nous a fait un bien fou pour notre famille, pour notre couple, parce qu'on a... Voilà, on a retrouvé aussi le temps d'être ensemble, le temps de l'écoute, le temps de ne pas être télescopé par toutes sortes de préoccupations.
Alors depuis l'heure, en passant par l'Orne, Calvados certainement un peu aussi, la Manche évidemment. Si vous aviez à retenir trois ou quatre hauts lieux, qu'est-ce que vous avez envie de nous donner à voir?
Moi, j'ai été énormément touché par tous ces villages qu'on a traversés, parce que c'est vrai que les Parisiens, souvent, quand on pense Normandie, on pense Deauville, Trouville, à la rigueur le Mont-Saint-Michel, mais on pense pas tellement à l'arrière-pays. Je me souviens notamment avoir été beaucoup marqué par la région de Verneuil-sur-Avre. Donc là, c'est vraiment dans l'heure les tout prémices de la Normandie. C'est magnifique, c'est médiéval. Ce sont des lieux très bien conservés avec... on a l'impression d'être un peu hors du temps, dans un peu le Moyen-Âge des visiteurs, quoi. C'est des lieux où on rêve volontiers. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé.
Et dans la continuité de vos pas, vous êtes passé de l'Eure au département de l'Orne. Est-ce qu'il y a des paysages qui vous ont marqué dans ce département?
J'ai énormément été frappé par la beauté de l'Orne, qui est un département absolument incroyable, avec des régions de bocages, de collines verdoyantes, très très vraiment magnifiques. Et peut-être un lieu, moi, qui reste inoubliable, je me souviens, c'était à côté de Lonlay-l'Abbaye. Il y a ce qu'on appelle la fosse Artour, c'est une espèce de faille granitique qui annonce une rupture de relief. Enfin, on voit à perte de vue, très très, le regard vraiment se perd à l'horizon. Et il y a des légendes arthuriennes sur ce lieu. Voilà, il y a une rivière qui coule à 90 mètres en contrebas. Enfin, c'est un lieu qui est très très beau. On a l'impression, moi j'avais l'impression de me balader dans le Seigneur des Anneaux quand j'étais enfant et que je lisais Tolkien ou les Chevaliers de la Table Ronde. Il y a quelque chose de très minéral avec cette forêt un peu énigmatique. Et on a croisé des touristes là-bas. Et c'est vrai qu'en se baladant avec l'âne comme ça et notre accoutrement de pèlerin, je pense qu'on devait un peu passer pour une vision anachronique de pèlerins médiévaux comme ça égarés au XXIe siècle.
Vous êtes notre guide privilégié, peut-être et certainement pour donner envie à des auditeurs de parcourir aussi les chemins de Saint-Michel. Pourquoi ne pas le faire aussi par tronçon, hein? Ça peut être aussi quelque chose qui peut être envisageable, comme le font d'ailleurs beaucoup de pèlerins qui vont depuis le Mont-Saint-Michel jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Là aussi, c'est l'occasion d'une belle mixité sociale.
Ça, c'est particulièrement vrai sur les chemins de Compostelle où on rencontre beaucoup de pèlerins de toute l'Europe, voire du monde entier. Et en fait, on demande jamais à quelqu'un, vous venez, enfin, si on demande aux gens, vous êtes parti d'où? Mais on leur demande jamais, c'est quoi votre travail, combien vous gagnez par mois, de quel bord politique vous êtes. On demande juste le prénom, d'où vous venez, et c'est tout. Et on souhaite un bon chemin aux gens. Et le chemin a cette faculté extraordinaire, je trouve, de gommer toutes les appartenances sociales, tous les déterminismes, pour finalement se concentrer sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire qui on est, notre prénom, où on va. Et voilà, on est vraiment dans un rapport humain à l'état pur. Sur le chemin de Saint-Michel, c'est un peu différent, parce qu'en fait, comme ce chemin n'est pas encore très connu, il demande à renaître, on croise très peu de personnes, en fait. Ceux qu'on croise, ce sont les gens qui nous accueillent le soir, qui nous accueillent dans les villages. Et là aussi, c'est le lieu d'un échange extraordinaire.
Vous parlez de rencontres extraordinaires. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous revient en mémoire à cet instant de l'interview?
Pendant ce voyage, on a eu un peu tous les cas de figure. On a été hébergé par l'une des fortunes de France qui nous a accueillis dans un grand château dans la campagne normande, comme ça. Enfin, dans une suite, un truc incroyable qu'on n'aurait jamais vécu de notre vie. Mais on a été aussi accueillis par des agriculteurs qui vivaient dans des fermes avec des sols en terre battue, où on avait encore un poêle à bois qui chauffe l'ensemble de la maison. Ce que je veux dire, c'est que On a vraiment vu la France dans son ensemble, avec tout le spectre, de la personne la plus humble à la personne la plus fortunée, et que chez toutes ces personnes, on a senti une empathie, une chaleur, une générosité qui était la même. Et moi, ça m'a énormément rassuré sur la nature humaine, en fait. Ça, ce que je dis souvent, c'est qu'on n'a pas voyagé d'un village à l'autre, mais d'un visage à l'autre, d'une famille à l'autre. Ce voyage, c'était un voyage qui était porté par des êtres. Et plus d'une fois, on a eu la tentation d'abandonner parce que c'était trop dur, parce que on était fatigué, parce qu'on a l'impression qu'on n'arriverait jamais au bout. Et ce sont les gens qu'on a rencontrés, ce sont leurs encouragements, leur enthousiasme qui nous a permis d'aller jusqu'au bout et de le vivre, quoi. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, quoi, de se dire que aujourd'hui, sans les autres, on n'est rien, quoi. Il faut apprendre à dire, voilà, j'ai besoin de toi. Moi aussi, je peux sans doute faire quelque chose pour toi, et que c'est à travers cette altérité que nos vies valent d'être vécues.
Des rencontres à l'occasion de randonnées, de pèlerinages, comme vous le dites à l'instant. Ça fait du bien, en fait, de respirer un peu entre 8h30 et 9h ce dimanche matin, à une époque où nous parlons aussi beaucoup de crise.
tous les modèles de la société occidentale sont bousculés, sont mis à mal. Et je trouve que finalement, une des grandes vertus que cette crise a fait renaître, c'est justement ce sens de l'entraide, ce sens de la fraternité. Comme dans un village, quand il y a une catastrophe naturelle, tout le monde se serre les coudes. On va balayer chez le voisin, on vient nettoyer, on vient aider les gens. Ben là, c'est pareil. Quand vous partez en pèlerinage, vous sollicitez les autres malgré vous. Et ça fait naître aussi quelque chose chez le sédentaire qui vous accueille. C'est-à-dire que le pèlerin a aussi une vocation d'être un éveilleur sur son chemin. Donc, pour moi, c'est vraiment... Le pèlerinage vous donne une vision rassurante et lumineuse de la nature humaine.
Une vision lumineuse de la nature humaine, et les auditeurs pourront retrouver cette aventure, l'aventure de vos 450 km à pied vécus comme un pèlerinage depuis Paris jusqu'au Mont-Saint-Michel. Sur la trace de l'Arcan, c'est le titre de votre livre paru aux éditions Bayard. Vous en êtes l'auteur, François-Xavier Maigre, et Pauline, votre épouse, a validé le contenu.
Je l'ai écrit et Pauline a bien sûr validé le contenu, mais Pauline en revanche a vraiment été l'âme du voyage, c'est elle qui a préparé tous les aspects logistiques. Moi j'ai très peu d'esprit pratique, en fait je suis un peu le rêveur du couple, donc j'ai travaillé sur le chemin historiquement, poétiquement, pour voir un peu quelle était un peu l'origine de ce pèlerinage et qu'est-ce qu'on allait y découvrir. Mais c'est Pauline qui a calculé le nombre de kilomètres par jour, comment il fallait équilibrer les sacoches, tout ça. On se complète assez bien, l'une plutôt cartésienne, l'autre plutôt rêveur, et en mélangeant tout ça, ça fait un cortège assez original.
Merci beaucoup François-Xavier Maigre d'avoir accepté à nouveau de répondre à ces questions pour l'émission Tendance Confidence diffusée sur la première radio régionale et indépendante en Normandie.
Merci beaucoup.
Et dans quelques instants, le journal de la rédaction de Tendance Ouest. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances si vous avez la chance d'y être, et bon courage à ceux qui travaillent.